Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous et je vous invite ce matin à relire un texte que vous connaissez certainement bien, mais qui, lorsque je l'ai relu, j'ai encore découvert une certaine dimension et une certaine profondeur à la parole de notre Dieu qu'il est toujours bon quelquefois de se remémorer et de comprendre aussi à quel point cette parole que nous lisons dimanche après dimanche en fait est beaucoup plus profonde qu'on ne le pense. Beaucoup plus riche qu'on ne le pense. Et j'aimerais que vous puissiez déjà garder à l'esprit que même s'il y a des versets ou des passages que vous connaissez extrêmement bien, dites-vous toujours que certainement vous n'avez que gratté la surface pour comprendre ce que cela signifie. Imaginez un tel verset comme 3:16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » On arrive à le réciter, on pense qu'on en a fait le tour. Et pourtant, quelquefois lorsqu'on s'arrête et lorsqu'on médite, on se rend compte que cette parole est bien plus profonde, où elle prend des couleurs et des dimensions supplémentaires lorsque nous vivons d'autres événements. Et ce matin, je voudrais vous inviter à lire ce texte du psaume 139, et qui dit la chose suivante. « Éternel, tu m'examines. » Et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Éternel, une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvrent, la nuit devient lumière tout autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Oh, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semble impénétrable. Que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi, Éternel, pour appuyer leurs projets criminels. Ils utilisent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent, ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent? Je les déteste de façon absolue. Ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Éternel, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Lorsqu'on lit ce texte pour la première fois, ou même une deuxième fois, ou une troisième fois, à l'évidence, on se rend compte que c'est un texte qui est d'abord et avant tout une belle déclaration, une belle confession de ce que notre cher ami Yann nous répétait et nous a répété pendant de longues heures pendant la prière, les attributs de Dieu. Et en fait, on se rend compte dans ce texte que Dieu est omniscient. Dieu sait tout de David. Dieu sait tout de nous. Il connaît nos actions, il connaît nos pensées, il connaît nos paroles. Il est même dit qu'il les connaît avant même que nous ayons parlé. Dieu sait tout. La deuxième chose aussi, c'est que Dieu, dans ce texte, entre le verset 7 et le verset 12, c'est que Dieu est omniprésent. Dieu remplit l'univers, nous a-t-il dit. Il nous est dit qu'il est vain d'essayer de fuir l'Éternel. Il nous a même dit qu'il y a des endroits où normalement le Dieu vivant ne devrait pas se trouver, par exemple dans le séjour des morts ou dans les ténèbres, lui qui est lumière. Et si on transposait un petit peu, on pourrait toujours se dire, dans certains endroits de notre monde, Dieu certainement n'est pas présent. Là où la plus vile des bassesses humaines pourrait éventuellement s'exprimer, que ce soit dans des conflits, dans la torture, dans la débauche, on peut toujours se dire, là au moins l'Éternel ne se trouve pas. Et là je peux fuir l'Éternel. Mais non, ce texte nous rappelle que partout, partout l'Éternel se trouve. J'aime répéter à l'envi cette image des trois amis de Daniel qui étaient dans la fournaise, et là, au sein même de l'épreuve, se trouvait un quatrième homme qui était l'ange de l'Éternel, et la présence de l'Éternel était avec eux au sein même de l'épreuve et de la fournaise. Il n'y a aucun endroit où l'Éternel ne se trouve pas. Et puis l'Éternel est omnipotent. Il est tout-puissant. Et dans ce texte, la façon dont c'est décrit, c'est tout simplement que notre vie a été en fait, est l'œuvre du Seigneur dans le ventre de notre mère. Et c'est un créateur formidable qui, même lorsque nous étions informes et que les choses n'avaient pas vraiment de belle forme ou de capacité, l'Éternel voyait déjà sa propre intention là-dedans. Et le faisait advenir, un petit peu comme Michel-Ange qui disait « J'ai vu ce morceau de marbre, et j'ai vu qu'un ange y était emprisonné, et j'ai sculpté ce morceau pour libérer l'ange. » D'arriver à voir dans ce qui est le plus informe, le plus faible, quelque chose de magnifique, et c'est là où David contemple dans sa propre vie, dans son propre corps, dans sa propre existence, que le Seigneur est un créateur formidable, et qui va même au-delà de ça, c'est-à-dire il n'a pas simplement créé l'homme pour le lâcher sur la terre et se débrouiller tout seul, mais il a déjà anticipé et prévu la vie de ces hommes. Non pas pour les téléguider et puis simplement les manipuler, mais pour être présent dans cette vie et les accompagner. C'est ce que David entend lorsqu'il dit « Tous les jours qui m'étaient destinés, tu les connaissais déjà ». Pourtant, si on s'arrête, c'est extrêmement important d'avoir cette compréhension de ce que Dieu est. Comprendre ce que sa parole nous dit à son sujet, parce qu'en fin de compte, c'est là-dessus que notre foi et notre espérance va prendre appui. Et que si nous ne sommes pas au clair sur ce genre de choses-là, ça sera continuellement le doute qui va nous travailler, nous pénétrer. Et à un moment ou à un autre, notre foi, notre espérance, notre perspective de l'avenir va commencer à chanceler. Or, ce que nous avons ici, et qui est extrêmement important dans ce texte, c'est que David déclare ces choses qui sont au-delà de n'importe quelle interprétation, au-delà de n'importe quel avis, de n'importe quelle église qu'on pourrait être. Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent. Et nous pouvons appuyer notre foi et notre espérance là-dessus. Et c'est la première des choses que nous pouvons tirer de ce texte du psaume 139. Et de nombreux prédicateurs et commentateurs que j'ai pu regarder, etc., et tout, passent énormément de temps à parler de ça et dire « Le psaume 139, c'est magnifique parce qu'il atteste à quel point Dieu est tout-puissant. À quel point Dieu sait. » Mais il me semble que si on s'arrête uniquement lire le psaume 139 pour trouver ceci. Il y a énormément de choses dans ce psaume que nous ne voyons pas. S'arrêter à parler de Dieu seul à partir de ce psaume revient à ne voir en fait que la partie émergée d'un iceberg. Et il semblerait, d'après ce que j'ai pu lire ou entendre, c'est que lorsqu'on voit un iceberg, en fait, on ne voit que 20% de l'iceberg qui est émergé. Et que si on plonge, si on descend tout d'un coup, on découvre quelque chose encore plus vaste, encore plus large, encore plus dense, qui correspond à 80% de l'iceberg. Ainsi donc, dans le psaume, il nous faut mettre notre scaphandrier et descendre un petit peu sous la surface, quitte à attraper un petit peu froid, pour trouver un petit peu ce qu'il y a de plus dans ce psaume qui me paraît extrêmement important et qui me paraît être aussi ce qu'est l'intention du psalmiste. La première des choses qui est simple à dire, c'est tout simplement que dans ce texte, ce n'est pas tellement Dieu qui est en train de dire des choses à son sujet que c'est David qui est en train de les dire. Donc on n'est pas devant un texte comme un traité de théologie ou un livre qui est en train de nous dire « Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient », etc. Et c'est Dieu qui parle pour qu'on l'écoute. Ce qu'il y a de formidable dans le livre des psaumes, mais qui est quelque part un défi aussi, c'est que ce sont des paroles d'hommes. Ce sont des prières. Ce sont des réactions des hommes qui vivent, en fait, leur foi au Seigneur. Ça ne veut pas dire que les psaumes sont nécessairement inférieurs en qualité ou que peut-être ils contiendraient des erreurs ou des approximations parce que ce sont des hommes qui parlent. Dieu, dans sa souveraineté, a permis que ces psaumes soient aussi sa parole et que nous pouvons les lire et les écouter et les entendre et nous enseigner nous-mêmes comme toute autre partie de la parole. Mais sauf que les psaumes ont cette dimension supplémentaire qui fait que c'est un des livres qui a été le plus aimé et le plus chéri par les chrétiens au cours de l'histoire et qui fait que même souvent, lorsqu'on imprime que le Nouveau Testament, hop, on ajoute aussi le livre des psaumes parce qu'on se dit que c'est quand même un livre tellement riche et auquel les gens peuvent tellement s'identifier qu'on l'ajoute même dans des petits Nouveaux Testaments. Et dans ce psaume, c'est ça qui est important, ou une des premières choses qui est importante, c'est pas tellement que Dieu est en train de parler, que c'est David qui est en train de le dire. Et David est un homme comme nous. Et David est quelqu'un qui, là, est en train d'observer et de contempler ses attributs de Dieu, et il est en train de se dire, ça a un impact sur ma propre vie. Ça a une signification dans qui moi je suis. Ce n'est pas simplement un enseignement de Dieu qu'on a dans des traités de théologie ou dans des livres et puis dans une confession de foi qui prend la poussière quelque part. C'est que tout ça, ça a une signification. Il n'est pas en train de parler de l'univers, des galaxies, des choses comme ça et tout, de l'infiniment petit, etc. et tout. Ce qu'il voit, c'est en fait la toute-puissance de Dieu dans sa propre vie. Et à quel point il ne peut pas échapper à ce Dieu qui a ces attributs-là. Et ce qui est formidable ici, et c'est la première chose peut-être dans laquelle il nous faut plonger, c'est de se dire, tiens, ce n'est pas simplement de la doctrine, ce n'est pas simplement un article de confession de foi, c'est quelque chose qui prend un sens extrêmement important pour David lui-même dans sa propre vie. Ainsi, en lisant ce psaume, ce qu'il ne faut surtout pas louper, c'est la réaction de David et la résonance que cette parole a dans sa vie. Quelle résonance est-ce que la parole de Dieu, l'enseignement, la doctrine a dans notre propre vie? Et ça, c'est une des choses importantes dans ce psaume. C'est que David ne reste pas insensible. Il n'est pas simplement en train de dire « il faut que je croie ça parce que tous les gens avant moi et tous les théologiens m'ont dit « il faut que je croie ça ». Mais c'est d'arriver de partir de là et de se dire « très bien, quel impact est-ce que ça peut avoir dans ma vie et quelle résonance est-ce que ça a dans ma vie. Et je ne sais pas, lorsque vous-même, en écoutant Yann parler de tous ses attributs, je ne sais plus les 193 dont il nous avait parlé, etc., quelle résonance est-ce que ça trouve dans votre vie? Mais ici, chez David, il les a vus jusque dans sa propre vie personnelle. Et ça ne laisse pas indifférent. Ce psaume est une illustration parfaite de comment la parole de Dieu est vraiment vivante. Elle est efficace. Elle arrive à rentrer dans la vie de chacun d'entre nous, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, nous est-il dit dans le livre aux Hébreux. Elle arrive à pénétrer jusque dans le cœur de David pour aller faire jaillir quelque chose d'extraordinaire dans sa propre vie. Et David est là, il sait ce qui est juste à propos de Dieu, mais il ouvre son cœur pour que cette parole rentre et qu'il arrive à trouver dans sa propre vie des illustrations de la toute-puissance de Dieu, de la toute-connaissance de Dieu, de la présence continue de Dieu. Et ça serait peut-être un exercice pour vous-même à faire, à reprendre un petit peu ce que David a fait pour lui-même, mais de prendre ces attributs tellement énormes de la part de Dieu et de dire, moi je les vois comme ceci dans ma propre vie. Et je peux en attester parce que je les vois. Dans un premier temps, David observe ce qui est de Dieu. Mais dans la deuxième chose aussi, la façon dont il le raconte, c'est qu'il n'est pas en train de voir ces attributs de Dieu et cette toute-puissance de Dieu comme quelque chose qui est tellement grand, qui va peser sur ses épaules, qui va le faire disparaître parce que Dieu est tellement grand et tout-puissant. Mais constamment, il y a dans ces versets des signes de la bienveillance de Dieu. Même lorsqu'il est dit « Je me réveille et tu es là », ce n'est pas tellement « Oh, ça y est, il m'embête encore ». Mais non, tout simplement, c'est que on peut se retrouver à des moments où, oui, on se réveille, etc., et on se retrouve dans une nouvelle situation, et on peut être certain que l'Éternel est juste là. Lorsqu'il est dit que sa main est sur lui, au verset 6, ce n'est pas tellement pour lui dire « Ta main pèse sur moi, tu m'embêtes », mais c'est pour tout simplement dire « Oui, tu es là et tu prends soin de moi ». Et nous avons à l'évidence dans ce psaume ce que Jésus va illustrer plus tard par la brebis perdue. Tout simplement que le Seigneur va nous pourchasser, mais tout simplement avec le désir de nous trouver. Et ici, si David a peut-être l'impression en disant « Écoute, je m'en vais par ici. Ah, ben non, tu y es, ben alors je m'en vais par là. Ah, ben non, tu y es encore. » Ce n'est pas tellement qu'il est exaspéré. C'est tout simplement qu'il se rend compte que le Seigneur est constamment en train de le rechercher, est constamment en train de vouloir être en la présence de David aussi. Et c'est exactement ça qui est dans la parabole de la brebis perdue. C'est que le Seigneur est prêt à laisser de côté les 99 autres pour aller chercher celle qui peut-être d'elle-même s'est égarée, peut-être celle qui s'est blessée, peut-être celle qui ne sait même pas qu'elle est entourée de danger et est en train de brouter là le soir pendant que les loups sont en train de la regarder. C'est ce Dieu-là qui se trouve dans le psaume 139. C'est ce Dieu-là qui utilise sa toute-puissance, son omniscience, son omnipotence pour venir à la rencontre de chaque individu que nous sommes. Parce qu'il veut être en notre présence. Et David le voit bien ici, et ça va le conduire à la louange. Plusieurs versets dans le psaume 139 expriment cet émerveillement de la part de David. Non pas cette exaspération, non pas cette peur, non pas ce sentiment que Dieu est un tyran, mais au contraire de dire « mais c'est extraordinaire ». Il y a cette confiance qui existe chez David, dans le Seigneur, qui va le pousser, en fait, à la louange. Remercier le Seigneur pour qui il est. Chanter qui il est. S'exclamer de ce que lui-même objet de l'œuvre du Seigneur, il est quelqu'un dans un sens de bien, de beau. Combien d'entre nous aurions le courage de dire la même chose que David, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Moi, je m'arrête à « Je te remercie d'avoir fait quelques petites bonnes choses au travers de moi. » Et je m'arrête généralement à ça. Mais David, en présence du Seigneur et de ce qu'il fait et de cette grandeur, il est en train de se dire « Même moi, je suis une créature extraordinaire. » Et il ne le dit pas parce qu'il se sent quelqu'un de bien. Il le dit parce qu'il contemple cette œuvre extraordinaire de Dieu dans sa propre vie. C'est un courage qui naît de la foi qu'il a en Dieu. C'est un zèle et une témérité qu'on ne peut avoir qu'à partir du moment où on est dans cette foi et dans cette louange de qui Dieu est. Le reste du temps, ça devient de l'insolence. Mais parce qu'il est baigné par cette grandeur et bonté de Dieu, la première des choses qu'il fait, c'est de remercier le Seigneur et de le louer pour qui il est. Mais là où la logique dépasse un petit peu l'entendement, c'est lorsqu'il arrive dans ce dernier verset. Et dans ce dernier verset, il reprend complètement ce qui se trouve au premier verset, où il regardait de l'extérieur en disant « Dieu, tu es un Dieu qui m'examine, tu es un Dieu qui me connaît, tu es un Dieu qui sait tout, même avant même que j'arrive à le dire ou le penser. » Et dans le dernier verset, il va reprendre les mêmes verbes, mais en priant une invitation au Seigneur pour lui dire « Seigneur, je te demande non seulement de continuer ce que tu fais, mais je te demande, examine mon cœur, éprouve-le. Dis-moi où je suis dans ma vie aujourd'hui. Parce que je sais que tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de le faire pour me conduire sur la voie de l'éternité. » Et donc on a cette progression dans le psaume 139, où David dépasse simplement la confession de foi qu'on peut réciter, qu'on peut écrire, et puis dire « oui, c'est ça que je pense ». Il prend tout ce qu'il pense pour rendre à l'Éternel la louange et l'adoration qui lui est due. Et il va encore beaucoup plus loin pour dire « maintenant, Seigneur, c'est plus seulement ce que toi tu veux, c'est aussi ce que moi je veux. » Ce que tu fais, Seigneur, à mon endroit, c'est ce que moi je souhaite. Et ce que je le souhaite dans une totale confiance et je m'ouvre complètement. Et lorsqu'on sait ce que représente le cœur dans l'Ancien Testament ou dans la Bible, c'est cette partie la plus intime, la plus centrale de l'homme. David ici se permet et veut et ouvre entièrement son cœur pour que le Seigneur l'examine, l'éprouve et le conduit. Et je pense que c'est ça, je l'ai dit une autre fois lorsque je comparais un petit peu David avec Saül et avec Salomon, c'est ça qui fait toute la différence chez David en comparaison avec d'autres personnages de l'Ancien Testament et dans la Bible. Ce n'est pas tellement qu'il était quelqu'un de bien qui a écrit, bon, qui était un grand roi, qui a tué 10 000 quand Saül en a tué 1 000, ou qu'il a construit Jérusalem, ou qu'il a tué Goliath. Ce n'est pas ça qui fait la différence entre lui et Saül, entre lui et Salomon. Parce qu'en plus dans sa vie, comme on a pu le répéter à l'envi dernièrement, il y a des choses qui ne sont pas très belles dans la vie de David. Et beaucoup qui se sont penchés sur la vie de David et sur le personnage voient bien que c'était un personnage qui avait ses propres faiblesses. C'était un père un petit peu coussi-coussa, hein. Ses fils, après, ce n'était pas glorieux, quoi. Je veux dire, il n'avait pas réussi à mettre les choses en place convenablement. Je ne m'étendrai pas sur son adultère avec Bathsheba et le meurtre d'Uri, le mari de Bathsheba. C'est ça qui fait toute la différence de David avec les autres personnages de l'Ancien Testament. C'est ça qui fait que David est retenu aujourd'hui comme un des personnages qui était selon le cœur de Dieu. parce que malgré son imperfection, il avait pris tout ce qu'il savait de Dieu, tout ce que Dieu lui disait, tout ce qu'il avait été enseigné, et il le laissait pénétrer jusque dans son cœur, mais jusqu'à lui-même prendre l'initiative d'ouvrir ensuite son cœur et de dire « Seigneur, examine-moi, éprouve-moi et conduis-moi ». Et je lisais encore quelques témoignages de personnes qui avaient osé prier ce genre de choses-là et qui, au bout de quelques semaines, disaient « Seigneur, tu peux ralentir un petit peu parce que ça fait un petit peu beaucoup de choses ». C'est la partie immergée de ce que nous croyons. Tout ce que nous croyons à propos de Dieu, tout ce que nous confessons, tout ce que nous enseignons, n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Mais il faut arriver à laisser cela descendre et rentrer et découvrir plus bas jusqu'à ce qu'on arrive au plus profond ici pour comprendre ce qui est vraiment l'intention du Seigneur. Mais ce qu'il y a, c'est que David n'est pas simplement, et il ne faudrait surtout pas croire que David est une exception. Il ne faudrait surtout pas croire que peut-être ceci, c'est le type de piété qu'il y avait dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, et que dans le Nouveau Testament, en fait, les choses se passent un petit peu de façon différente. Je pense qu'ici, David est en train de nous montrer, on pourrait le retrouver dans plein d'autres psaumes aussi, en fait, ce qui est véritablement la vie spirituelle que le Seigneur souhaite que nous ayons. Et en fait, si on continue à plonger nos propres regards et qu'on essaye de transposer un petit peu dans le Nouveau Testament, nous avons naturellement ce que nous connaissons comme étant le point de départ généralement de la vie chrétienne, qui est en fait notre rédemption et notre justification en Jésus-Christ que nous recevons dans la repentance et par la foi. C'est ce que nous appelons la conversion. Bien sûr, nous savons aussi qu'en bas, tout au bout, nous cherchons la vie éternelle. Nous cherchons la vie selon l'Esprit. Et nous cherchons que le Seigneur nous transforme enfin pour que nous soyons à l'image de Jésus-Christ. Mais il n'empêche qu'il y a un certain nombre de choses qui nous sont dites, en fait, dans le Nouveau Testament aussi, et qui sont des réalités qui me paraissent être extrêmement importantes, qui participent à ce processus de maturation spirituelle et qui nous aident à continuer pour arriver sur le chemin vers la vie éternelle et cette vie abondante que le Seigneur nous promet. Et ici, Pierre en a parlé, on en a parlé dans le cadre des promesses et tout ça, mais nous sommes constamment, non seulement dans Romains 12, mais dans plusieurs épîtres de l'apôtre Paul, appelés à renouveler notre intelligence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne pensons peut-être pas toujours comme le Seigneur voudrait. Et ce que nous devrions faire, c'est laisser cette parole comme celle qui nous dit que Dieu est tout-puissant, omniscient, etc. et tout, rentrer dans notre intelligence pour que nous la comprenions et que nous sachions ce que dit effectivement le Seigneur, afin que peu à peu, nous pensions différemment. Certains diront oui, mais enfin ça c'est un petit peu la tête, c'est rationnel, etc. et tout. J'y peux rien, le Seigneur vous a créé avec une tête aussi, un cerveau et la capacité de réfléchir. Et je vous invite à prendre une concordance si vous voulez et à regarder le nombre de fois où l'apôtre Paul nous invite constamment à être renouvelés dans notre intelligence. Et ça serait une erreur de penser que l'intelligence ça signifie le cœur ou les émotions ou quoi que ce soit. C'est clair et net, l'intelligence c'est aussi ce que nous pensons. Et c'est la raison même pour laquelle nous avons voulu faire cette série aussi sur les promesses. C'est tout simplement de dire, à un moment ou à un autre, écoutons ce que Dieu a à dire, et non pas simplement ce que nous pensons. Et d'accord, une fois qu'on saura exactement ce que Dieu est en train de dire, on procédera à une autre étape qui est comment est-ce qu'on se l'approprie et comment est-ce qu'on vit avec cela. Mais il n'empêche aujourd'hui, c'est que si nous ne nous soumettons pas, si nous ne travaillons pas à lire la parole et à la comprendre pour savoir ce que Dieu lui-même est en train de dire, nous ne pourrons jamais progresser dans notre vie vers la vie éternelle et abondante, parce qu'en fait, nous nous serons arrêtés tout simplement à dire « je ne sais pas ». Bien sûr, en vertu de l'œuvre de Jésus-Christ, nous serons sauvés. Parce que ce n'est pas de nous-mêmes que nous sommes sauvés, c'est de son œuvre. Et si par la foi nous le recevons, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais nous resterons tout simplement à un état, tout simplement, de petit enfant. Une autre étape qui est importante et qu'on trouve aussi dans le Nouveau Testament, c'est de se laisser transformer de gloire en gloire par l'Esprit et par la parole. Combien d'entre nous sommes activement à la recherche de cette transformation? Ou alors combien est-ce que d'entre nous sommes plutôt des personnes qui disent « Seigneur, transforme-moi » et on attend tout simplement que l'Esprit, lui, par une baguette magique ou quoi que ce soit, nous transforme. C'est aussi sous l'action de l'Esprit que nous sommes transformés. Mais nous sommes invités aussi, nous-mêmes, à travailler à notre salut. Nous sommes aussi invités à porter le fruit de l'Esprit en nous, de façon active, et à le rechercher. Et si je vous posais la question, quel est le progrès que vous avez l'impression d'avoir fait dans les 18 derniers mois dans votre vie spirituelle? Est-ce que vous pourriez répondre? C'est une question qu'on se posait l'autre soir en conseil. On se demandait si dans l'Église, on avait tous l'impression de progresser dans notre vie spirituelle. On ne savait pas trop quoi répondre. Et pourtant, c'est ce que nous invite à faire le Nouveau Testament. Mais il y a aussi une chose que Jésus lui met en évidence, qui est de aimer le Seigneur de tout son cœur. Il le dit bien sûr lorsqu'il a cette discussion avec le pharisien, auquel il rajoute aussi l'amour du prochain. Et comme je l'ai dit plus d'une fois, et c'est ce qui me semble être vraiment important dans cette rencontre qu'il a avec Pierre, où il lui dit « Pierre, m'aimes-tu ? » Et ce n'est pas simplement parce que Pierre était un apôtre et un copain pendant 3 ans sur terre. C'est parce que c'est exactement ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire, au-delà de ce que tu crois, au-delà de ce que tu fais, de bien ou de pas bien, est-ce que tu m'aimes ? Ça, c'est la question que le Seigneur attend, pour laquelle il attend une réponse. Il dit, moi je suis venu parce que je t'aime, et toi ? Salomon a pu bâtir un temple extraordinaire pour Dieu. Il a pu maintenir la paix en Israël. Il a pu faire des choses extraordinaires dans le culte, avec des beaux chants, des instruments, des choses magnifiques que même David n'avait pas réussi à faire et que les autres gens après lui n'avaient pas pu faire. Mais le problème qu'il y avait, on se rend compte à la fin de la vie de Salomon, c'est que son cœur était partagé. Et ici se pose une question que nous avons, c'est « M'aimes-tu ? » Et le Seigneur ira jusqu'à accepter que Pierre lui dise pas « Je t'aime, mais j'ai de l'affection pour toi. » Il changera le mot. Parce qu'il reconnaîtra qu'il est simplement au début de ce processus, mais c'est suffisant pour le Seigneur. Et c'est ce que David a fait. C'est que David a laissé cette parole rentrer en lui, ça l'a poussé à la louange, et par la louange, il a dit, moi je vais, toute ma vie va devenir une réponse à Dieu, et je vais ouvrir ce qu'il y a de plus intime et de plus cher dans mon cœur, qui est qui je suis, ce que je pense, ce que je ressens. Et Seigneur, toi, entre là et fais ton œuvre. Alors, chers amis, j'aimerais que vous puissiez garder à l'esprit qu'en fait, la conversion n'est que le début des choses. Ce n'est pas une fin en soi. Bien sûr, nous devons proclamer la bonne nouvelle pour que les gens rencontrent le Seigneur et soient sauvés. Mais lorsqu'ils le sont, lorsque nous le sommes, nous sommes en fait au point de départ de quelque chose qui va nous amener, et j'ai adoré ce verset que tu as lu tout à l'heure du psaume 92, qui nous dit que jusque dans la blanche vieillesse, nous porterons du fruit si nous sommes plantés dans les parvis du Seigneur. Il n'y a pas de moment où nous sommes arrivés. Il n'y a pas de moment où les choses ont été trop difficiles, trop compliquées dans notre vie pour qu'on se dise « je désespère et puis Seigneur, j'attendrai ». À tout moment, le Seigneur peut continuer de nous transformer de gloire en gloire à l'image de son Fils parce que de toute façon, ce que nous serons et ce que nous sommes appelés à être, nous ne le saurons jamais dans notre vie parce que c'est beaucoup plus glorieux que ce que nous pouvons imaginer. J'aimerais conclure simplement avec ce verset que David a écrit aussi, mais qui me semble bien illustrer en fait l'intention ici. C'est que le secret de la vie, c'est fait de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous aspirons tous à être mieux, nous aspirons tous à être des enfants de Dieu, nous aspirons tous à quelquefois à être autre chose que ce que nous sommes. Mais le secret ici, c'est que le point de départ se trouve en Dieu lui-même. Et moi, ce que j'ai trouvé de façon extraordinaire dans ce psaume aussi, qui ne m'était jamais vraiment apparu, c'est que la louange, en fait, n'est pas simplement quelque chose qu'on va rendre à Dieu parce que c'est quelqu'un de bien. Bien sûr, on fait ça. Mais la louange participe au processus de cette appropriation. C'est-à-dire lorsque David reformule et lorsque David dit merci au Seigneur pour qui il est, c'est une façon pour lui aussi de s'imprégner de cette vérité et de la laisser le transformer. Chers amis, nous ne faisons pas de la louange aujourd'hui simplement parce que c'est dans le vent, c'est dans le style, ça nous fait du bien, on aime cette musique, etc. Et tout. Le Seigneur, en fait, veut aussi utiliser nos moments de louange pour que, en exprimant notre reconnaissance et notre adoration, ce soit une façon aussi par laquelle il est en train de nous façonner, de nous imprégner par cette vérité. Et par la louange, nous nous approprions ce que le Seigneur est et ce qu'il nous a enseigné. Ainsi donc, continuez à profiter de nos moments de louange, mais sachez une chose, c'est qu'en faisant cela aussi, vous laissez la parole vous façonner et vous imprégner. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a toujours plus dans la parole qu'on ne le pense. Il nous faut plonger les regards, quitte à avoir un tout petit peu froid, et descendre. Mais on se rend compte que c'est tout ce processus que le Seigneur veut mettre en place pour nous transformer. Et notre conversion n'est que le point de départ. Chers amis, si vous êtes ici, en vous disant « je suis sauvé, donc bon, voilà, je suis un petit peu à l'arrêt, c'est bon, je suis arrivé. » Non, ce n'est pas l'intention du Seigneur. Le Seigneur a beaucoup plus à accomplir dans votre vie, mais tout ce processus fait aussi que nous devons nous ouvrir à sa parole, la laisser nous imprégner, nous transformer. C'est l'intention que nous avons derrière toute notre série sur les promesses, non pas simplement pour nous faire plaisir en nous rappelant ce que le Seigneur veut nous donner, mais c'est aussi afin que cette parole transforme notre vie. Parce que le Seigneur nous les donne pour qu'elles transforment notre vie. Chers amis, faites de l'Éternel vos délices en écoutant sa parole, en vous laissant renouveler par elle, en louant le Seigneur et en fin de compte en ouvrant votre cœur. Je vous invite à quelques instants dans la prière et ensuite je laisserai Philippe venir faire les annonces. Père éternel, tu nous appelles à quelque chose de grand et de formidable. Seigneur, il y a peut-être des pensées et des sentiments dans notre cœur qui nous freinent. Et je vais te demander ce matin que tu puisses lever tout cela. Que nous ne soyons pas simplement poussés, Seigneur, par la culpabilité ou les « il faut que » ou les « yaka ». Mais Seigneur, que nous puissions suivre David comme il l'a fait lui aussi. Tout simplement en s'ouvrant, Seigneur, à la vérité de ta parole et à ce qu'elle signifie ou elle pourrait signifier dans notre vie. Et ensuite, Seigneur, par la foi, se laisser imprégner, façonner par elle. Mais Seigneur, que nous puissions, chacun d'entre nous, aller jusqu'au bout et dans une totale confiance, Seigneur, te dire, c'est vrai, Seigneur, examine-nous. Scrute notre cœur. Montre-nous, Seigneur, si nous sommes à notre place ou si nous sommes sur le bon chemin. Et enseigne-nous. Seigneur, nous prions tout cela aujourd'hui avec foi. Et nous te demandons, Seigneur, que tu fasses ton œuvre dans la vie de chacun d'entre nous. Nous te prions. Seigneur Dieu, nous te remercions parce que ce que tu as en réserve pour nous dépasse de loin notre entendement. Mais nous voulons, Seigneur, y aller et s'attendre, Seigneur, à ce que toi tu fasses de grandes choses en nous et parmi nous. Au nom de Jésus, amen.
C'est vrai que c'est le début des vacances. Ça fonctionne. Voilà. C'est vrai que c'est le début des vacances, donc c'est peut-être la raison pour laquelle nos chaises sont un petit peu vides. Ouais, apparemment, il y a un petit souci. Pourtant, là, Rémi, tu peux faire plus fort. Voilà, merci. Juste avant de partager les annonces de la semaine prochaine, un petit retour sur la semaine passée. Mardi, on avait la rencontre de membres par rapport aux mises en conformité, possibilités d'agrandissement des locaux de l'Église. Alors c'est vrai que comme on avait annoncé qu'il y aurait un vote, c'est juste de partager l'information. La soirée était très enrichissante. J'ai trouvé qu'il y avait de bonnes idées qui sont sorties, un bon partage. Par contre, on a repoussé un petit peu plus tard le vote dont on avait parlé. Donc, ne vous attendez pas à recevoir des bulletins ou à les trouver à la sortie. Ça viendra un petit peu plus tard. Voilà. Une autre information à partager. Jeudi, on avait la rencontre de la pastorale et on a rencontré le réseau Genevois. Disons, quelques membres du réseau Genevois et c'était très intéressant. Notamment le fait de se rendre compte que le monde évangélique, finalement, n'est pas si grand que ça. On a fait connaissance du neveu de Charlie, Emmanuel Veufray, entre autres. Et c'est vrai que c'est, pour moi, je trouve très encourageant de voir qu'il y a quand même, malgré le fait qu'on a peu d'échanges avec les églises genevoises, il y a quand même des liens qui existent. Et en tout cas, le lien de la foi, ce qui est vraiment très enrichissant. Vendredi, on avait aussi la rencontre avec le théâtre de la Marelle. Et c'était intéressant aussi de voir ce qu'ils nous ont proposé, de voir ce théâtre vraiment bien monté. J'entendais derrière moi souvent Emmanuel qui était bidonné de rire. C'est vrai que c'est une troupe que je trouve très intéressante à retenir pour l'année prochaine. Maintenant, le programme de la semaine qui vient. Lundi, à 20h30, préparation de la fête de l'Avent, la fête avant Noël. Mardi, les études bibliques des aînés, à 14h30. La réunion de prière à 20h30, donc ici. Ensuite, samedi, le groupe de jeunes qui se retrouve à Saint-Genis. Est-ce qu'il y a un horaire de fixé, Anne-Laure, ou bien... Voilà, donc le groupe de jeunes va se retrouver avec le groupe de jeunes de Saint-Genis. Pensez bien à relever vos emails. Dimanche, le culte ici à 10h30, dans cette salle. Maintenant, j'aimerais partager quelques nouvelles de Didier. Didier qui est présent ce matin parmi nous et puis qui va rentrer à l'hôpital cette semaine et qui aura une opération vendredi prochain. C'est vrai qu'on veut beaucoup penser à toi Didier, te porter dans nos prières aussi. Juste quelques informations, Didier se remet de sa bronchite qu'il a eue il y a quelques semaines, mais il va devoir être opéré pour une autre raison. Suite aux interventions qu'il a subies il y a 18 ans, il y a une partie donc des parties de tissu qui ont été endommagées par les traitements, les rayons. Et donc maintenant, il doit avoir une opération pour... Je vais vous lire un petit peu ce qu'il nous a envoyé comme message à certains, je pense, à certains d'entre nous aussi. Après avoir alerté quelques-uns d'entre vous pour une pneumonie qui a bien failli m'emmener à l'hôpital il y a 15 jours et me laisse encore faible. Je dois faire face à autre chose qui se profilait depuis cette fin d'été. Pour des questions d'assurance, il a été soumis à une expertise médicale en Suisse. Et le médecin a trouvé un souffle important à la carotide. Il s'en est évidemment suivi des examens et ils sont arrivés à la conclusion qu'une des carotides a passablement souffert des suites de la radiothérapie d'il y a 18 ans et présente maintenant un retrécissement sévère. La zone dans laquelle est située la carotide n'est pas en très bon état non plus et il faut pourtant agir sur ce retrécissement assez rapidement. Classiquement, la réponse médicale qui est faite, c'est d'ouvrir, de faire un pontage. Mais ce n'est pas envisageable à cause des risques liés aux antécédents. On se dirige donc vers la pose de ce qu'ils appellent un stent. C'est donc un petit tuyau en type de forme comme un ressort, j'imagine, qui permet de dilater l'artère et de retrouver le débit. L'introduction se fait par une artère dans le pli de l'aine. Alors cela ne nécessite pas d'anesthésie générale, d'où une hospitalisation courte, s'il n'y a pas de complications et que le résultat est satisfaisant. Alors ça s'est précipité un petit peu mercredi passé, d'où la date qui vient de l'opération vendredi prochain, vendredi 25, dans une clinique privée, la clinique Jean Mermoz à Lyon. Voilà, c'est vrai qu'on pense vraiment à toi Didier, que tu sois conduit, fortifié, porté aussi pendant ces moments, que notre Seigneur te renouvelle et te fortifie. Je vous ai parlé la semaine passée d'une possibilité de commande groupée pour la librairie, donc commande de calendrier, de cartes postales, donc tout ça. C'est toujours d'actualité. N'hésitez pas à contacter Pascal. Vous pouvez aussi faire des choix sur les sites internet des librairies qui mettent à disposition ces documents. Maintenant, une autre annonce concernant les calendriers, c'est que les calendriers en feuillet, vous savez, les blocs qu'on affiche sur les murs et qu'on détache tous les jours avec un verset biblique et puis parfois un commentaire qui est mis avec, ces calendriers sont arrivés. Donc Anne-Marie va se tenir au fond de la salle, à côté de la librairie, pour les vendre. Donc n'hésitez pas déjà à commencer à acheter ce que vous voulez distribuer autour de vous, ce que vous voulez prendre pour vous. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autres annonces. Je vous invite à vous lever. Je vais vous lire encore deux versets dans Hébreux. Hébreux 13 et les versets 20 et 21. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.